locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h02 sur Campus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Comme l'écrit si bien le journal Libération, on va pas vous cacher qu'hier à 20h, toute l'équipe du Centre FM a poussé un grand ouf de soulagement. Le Rassemblement National n'a pas fait la percée annoncée dans les sondages et les projections. Pour autant, le parti d'extrême droite totalise son plus grand nombre de députés jamais atteints dans son histoire en France. Avec ses alliés des Républicains, ils sont 143 députés nationaux populistes à siéger à l'Assemblée nationale. Et si le nouveau Front populaire fait un résultat qui nous donne le sourire, la responsabilité que nous aurons toutes et tous dans les prochains mois et les prochaines années est immense. Jamais nous ne baisserons les bras face à l'extrême droite. Jamais nous n'abandonnerons nos idéaux pour une France plus juste, plus écologistes, plus humanistes. La culture, le monde associatif et la justice sociale et climatique sont des piliers pour notre société, piliers pour lesquels nous continuerons à nous mobiliser sans relâche. Au sommaire du pédalo ce soir, le Maine-et-Loire, ce n'est pas la France, fanfaronnait hier soir Christophe Béchu au micro de nos collègues d'Angéville Actu. Dans toutes les circonscriptions du 49, pas un ou une députée Rassemblement National, pas un ou une députée Nouveau Front Populaire. Alors comment analyser ces résultats? Comment se passe une campagne électorale? Quel avenir pour les étudiants de France avec cette assemblée segmentée? On en parle avec Léo Métayer, candidat dans la deuxième circonscription du Maine-et-Loire, membre de l'Union étudiante qui a été investi dans une circonscription, la France insoumise. On est avec lui dans le pédalo ce soir. Alors ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Léo Métayer, bonsoir.
Bonsoir Hugo.
On se connaît plutôt bien, donc alors on va se tutoyer puisque tu portes régulièrement la parole du mouvement étudiant, l'Union étudiante 49 sur les ondes de campus. T'es étudiant en M2 de droit public à la fac de Saint-Serge, mais t'étais aussi et surtout candidat donc dans la deuxième circonscription du Maine-et-Loire, candidat pour le nouveau Front populaire. Tu arrives en deuxième position, 18 points. Derrière Stella Dupont, députée Ensemble réélue, puisque c'était elle la députée sortante. Le nouveau Front populaire arrive en tête de ces élections au niveau national en France avec 182 députés et il pourra probablement compter sur 13 candidats divers gauche, parmi lesquels les députés ultramarins, mais aussi François Ruffin qui a annoncé sa scission avec le nouveau Front populaire, Daniel Simonet ou encore Alexis Corbière. Avant de parler des résultats du Maine-et-Loire, est-ce que tu as été surpris hier soir des résultats et de cette victoire relative du nouveau Front populaire qui a donc la majorité, elle aussi relative, à l'Assemblée nationale?
Plutôt soulagé que surpris. Encore une fois, les sondages ont été menteurs sur cette élection. On avait prédit une percée de l'extrême droite. On avait prédit au premier tour qu'ils auraient une majorité absolue et que la France serait, pour la première fois de son histoire, un gouvernement d'extrême droite. Ça n'a pas été le cas. On a été extrêmement soulagé. On voit qu'ils sont aujourd'hui la troisième force de ce pays. On doit quand même noter qu'ils ont fait une percée qui est tout de même historique. Ils ont le plus gros groupe qu'ils n'ont jamais eu. Là où on est en tout cas extrêmement ravi, c'est que la première force politique aujourd'hui en France, c'est l'union de la gauche plurielle et des écologistes qui est aujourd'hui en mesure de gouverner.
Est-ce que c'était quelque chose auquel tu t'attendais?
Moi, je m'attends toujours au sursaut démocratique des Français, au sursaut républicain. Ils ont à de nombreuses reprises refusé de céder le pouvoir à l'extrême droite, donc je ne suis jamais surpris par l'intelligence des Français.
Le nouveau Front populaire se réunit en ce moment même pour, selon Manuel Bompard, tracer le chemin du programme du nouveau Front populaire. Je vais te poser une question très politique. Quel doit être, selon toi, le profil du Premier ministre proposé par le nouveau Front populaire à Emmanuel Macron? Un Premier ministre qui fédère, de Marie Toussaint à Gérard Larcher, comme certains ont pu le réclamer, ou bien un Premier ministre de rupture, issu du nouveau Front populaire avec des alliances difficilement envisageables avec d'autres groupes politiques?
Aujourd'hui, on voit que les Français ont fait un choix clair. Ils ont décidé que le gouvernement devrait être issu du nouveau Front populaire. C'est nous qui avons la majorité relative aujourd'hui à l'Assemblée. Il nous faut aujourd'hui un programme de rupture et ce programme, il a été écrit avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes. C'est le programme du nouveau Front Populaire, un programme de rupture avec tout ce qu'on connaît depuis 7 ans et la politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est cette politique-là qui a mené aujourd'hui à un vote vers l'extrême droite, un vote de colère, un vote de rejet, un vote de déception parfois, cette précarisation des services publics, la destruction de nos droits sociaux, etc. C'est ça aujourd'hui qui a fait monter la colère vers l'extrême droite, donc on ne peut pas continuer dans cette politique-là. Il nous faut un programme de rupture, c'est pour ça que nous on propose dès les premiers jours des mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, etc. C'est ce programme-là qu'il va falloir incarner, et donc il va falloir avant tout un gouvernement qui représente cette sensibilité-là, qui représente les équilibres du nouveau Front Populaire, avec un Premier ministre qui sera capable de mener ce gouvernement.
Alors justement, capable de mener un gouvernement avec une majorité relative, c'est difficilement gouvernable. Quelle est selon toi la stratégie à adopter ?
C'est pas difficilement gouvernable, on a eu une majorité relative là depuis 2 ans, c'est possible. On a des institutions, quoi qu'on en pense, qui ont fait qu'on a un exécutif qui est relativement fort et le gouvernement peut gouverner par voie réglementaire dès les premiers jours. Je disais augmenter
notamment grâce au 49-3.
Alors ça, c'est pas par voie réglementaire. Nous, on est de toute façon opposés à la méthode du 49-3. On a vu qu'elle a été une des principales raisons de la colère des Français. Non, par voie réglementaire, on peut augmenter le SMIC, on peut bloquer les prix des produits de première nécessité. Tout ça, on peut le faire sans recourir à la loi. Et ensuite, pour la loi, ce sera à nous de bâtir les consensus, mais sur la base du programme du nouveau Front Populaire.
Donc bâtir des consensus avec une alliance qui pourrait aller jusque en proposant aux députés ensemble de rejoindre cette coalition, cette grande coalition.
Je pense que l'heure aujourd'hui, c'est pas parler de coalition. La coalition, elle existe, c'est celle du nouveau Front Populaire. Il pourra y avoir des accords texte par texte, mais je vois difficilement aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait faire une coalition avec Ensemble, qui est, comme je l'ai dit, responsable de la montée de l'extrême droite, qui a été leur marchepied, qui a même repris à de nombreuses reprises le programme du Rassemblement National dans ses propres textes. On peut parler de la loi séparatisme, de la loi immigration. Ils ont également porté des textes que nous, on veut voir abrogés dans les plus brefs délais, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Ça me paraît techniquement impossible de faire la moindre coalition gouvernementale avec eux.
D'où ma question de avec qui gouverner, comment faire pour avoir une majorité absolue si jamais c'est impossible de choisir et de voter des textes avec d'autres que le nouveau Front Populaire. Il faudra que d'autres que toi peut-être y répondent, mais c'est quand même des questions qui se posent.
Oui, c'est des questions qui se posent. De toute façon, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle dissolution dans un an et demi, voire 2 ans. On verra à ce moment-là. Moi, je pense qu'on est capable, en tout cas, d'avancer dans l'intelligence collective. La majorité, comme je l'ai dit, elle est aujourd'hui pour le nouveau Front Populaire. On a une majorité relative, on est capable de gouverner. Il n'y a pas, pour l'instant, à avoir besoin à réfléchir. Il n'y a pas à faire d'autres coalitions. Il n'y a pas à exprimer pour l'instant que le pays serait bloqué, serait paralysé. Ce n'est pas encore le cas.
On a l'habitude de discuter ensemble dans ces mêmes studios au micro de Campus Angers du monde étudiant. Selon un sondage réalisé par Harris Interactive pour le journal Challenge que je vais m'empresser de citer, 41% des 18-24 ans ont voté pour le nouveau Front Populaire au premier tour des élections. Évidemment, les chiffres pour le deuxième tour ne sont pas encore connus, mais je suppose que ce genre de sondage va être publié dans les prochains jours. Est-ce que c'est une dynamique que toi, tu as senti sur ta circonscription, la deuxième circonscription du Maine-et-Loire ?
Oui, bien sûr. Et en fait, dans toutes les circonscriptions en France, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un investissement massif directement dans les campagnes, à la fois de la jeunesse, mais aussi des quartiers populaires qui ont compris qu'ils étaient les premiers menacés par la montée de l'extrême droite, qu'ils ont subi pendant 7 ans la politique destructrice d'Emmanuel Macron. Et il y a eu cet espoir de changement avec le nouveau Front Populaire. Donc ils se sont investis massivement dans les campagnes. On a eu énormément de néo-militants sur ces campagnes. Et ensuite, ils se sont investis massivement lors du vote.
Il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont choisi de voter, de s'engager en faveur du Rassemblement National. Qu'est-ce que tu as, toi, à leur dire, toi qui es aussi étudiant ?
Que ça, je n'ai cessé de le marteler pendant cette campagne, que le Rassemblement National n'est pas et ne sera jamais la solution à notre colère. Aujourd'hui, la colère des jeunes, c'est de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir représenté. Qu'est-ce qui se passera avec un gouvernement autoritaire comme le promet l'extrême droite? La jeunesse se plaint aujourd'hui de ne pas avoir un service public de l'enseignement supérieur de qualité, mais qu'est-ce qui se passera avec un gouvernement d'extrême droite qui va déjà baisser les subventions de l'enseignement supérieur et qui va ensuite faire une chasse aux sorcières comme ils ont voulu le faire, contraindre la recherche pour que ça soit une recherche telle qu'ils la souhaitent, un enseignement tel qu'ils le souhaitent. On a vu ce fameux choc que voulait Bardella pour l'enseignement. C'est pas le choc dont la jeunesse a besoin.
Comment s'est passée ta campagne, Léo Métayer ?
Elle a été extrêmement intense, extrêmement rapide. C'était la volonté du président de la République de déboussoler ses adversaires pour que son camp en sorte grandi et profite du désavantage des autres. On a montré notre capacité à se réunir extrêmement rapidement, à se mettre en ordre de bataille et à marteler le terrain, à expliquer notre programme, à convaincre les habitants de la circonscription un à un que c'est ce programme de rupture qui va répondre à leurs attentes.
Léo Métayer, tu arrives deuxième de la deuxième circonscription du Maine-et-Loire pour le Nouveau Front Populaire. Tu arrives derrière Stella Dupont, 18 points derrière, c'est énorme. Stella Dupont qui se présentait pour Ensemble. Tu arrives cependant devant Thomas Brissot pour le Rassemblement National, que tu devances simplement de 1000 petites voix. Est-ce que tu es satisfait de ce score? Est-ce que tu pouvais finalement espérer mieux?
On avait bien vu la dynamique dans ce second tour, qu'il y avait une prime au sortant. Ça a été le cas dans toutes les circonscriptions où La République En Marche se présentait, avec cette peur rationnelle de la montée de l'extrême droite. Il n'y avait pourtant pas de risque de l'extrême droite sur notre circonscription. Le candidat du RN était trop loin derrière, y compris avec des reports de voix, y compris avec une percée. Il n'aurait jamais fini premier. Stella Dupont a fait campagne justement sur la menace de l'extrême droite. Nous aussi, on l'a fait. Mais il y a eu une prime au sortant. Donc, elle a une partie de notre électorat s'est déportée sur elle, justement par peur de l'extrême droite. Nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est les résultats qu'on a fait au premier tour, où on était qu'à 3000 voix derrière Stella Dupont, qu'à 5 points, ce qui n'est rien du tout dans une élection, 3000 voix. On a vu cette dynamique dans l'entre-deux-tours, on a vu la dynamique déjà dès le premier tour. C'est plutôt ça que nous, on veut regarder, qui est extrêmement encourageant pour la suite.
L'Anjou est connu pour être une terre favorable à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe. Christophe Béchu, le maire d'Angers, est par ailleurs un ancien membre du gouvernement, peut-être encore actuel. On ne sait pas vraiment si jamais Gabriel Attal... Si Emmanuel Macron a accepté
la démission
de Gabriel Attal, merci. Comment est-ce qu'on fait pour mener une campagne sur un terrain difficile comme celui-ci pour le parti que tu représentais, pour l'organisation politique que tu représentais ?
C'est pas une campagne qui a été difficile à mener. C'est des élections législatives, c'est avant tout une campagne qui est nationale. Le programme est connu des Françaises et des Français. Nous, c'était expliquer notre démarche, expliquer le profil que je pouvais avoir, ce profil de candidat issu de la société civile, la société qui s'engage. C'est ça la campagne que nous, on a menée sur le terrain. Il a fallu remobiliser des électorats qui avaient quitté le chemin des urnes depuis des années, notamment dans les quartiers populaires, notamment dans la jeunesse, mais également au milieu rural. On a croisé énormément d'électeurs qui nous ont dit « Moi, ça fait des années que je ne vote plus parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien », mais qui ont été convaincus par notre démarche. C'est ça, aujourd'hui, qu'on a fait. Et ça a été également expliqué... j'ai envie de dire le mensonge que constitue la candidate Stella Dupont, qui... a essayé de faire croire pendant cette campagne qu'elle était issue de l'aile gauche. Au final, elle n'a de gauche que le nom. Quand on a voté, comme elle l'a fait, contre le repas à 1 euro pour les étudiants, quand on a voté contre l'augmentation du SMIC, quand on a voté contre le blocage des prix, quand on a soutenu un gouvernement qui a fait la loi séparatisme ou la loi Darmanin, on ne peut pas se revendiquer de gauche. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer au maximum de personnes.
Ces élections ont été beaucoup vues par le prisme du national et très peu sous le prisme du local, alors que pour autant, on élit notre représentant à l'Assemblée nationale ici à Angers, nos représentants, en l'occurrence toi, la deuxième circonscription du Maine-et-Loire. Il y a évidemment des enjeux qu'on a très peu soulevés, notamment les enjeux locaux. Toi, finalement, qu'est-ce que tu as envie de retenir des actions que tu as commencé à apporter ici, au local, pendant cette campagne ?
Alors, au local, ce qu'on a pu voir, c'est notamment en milieu rural, concernant le monde agricole, où on a aujourd'hui un réel problème, où on impose au monde agricole de changer de modèle, d'aller vers un modèle plus éthique, plus durable, qui est le modèle qui est souhaité, mais on le fait en l'imposant et surtout sans aider le monde agricole à aller en transition. Nous, c'était toute la dynamique qu'on avait avec le nouveau Front Populaire, c'était d'accompagner le monde agricole pour aller vers ce modèle de transition. Ça, c'est un premier point, par exemple. On a vu également, là toujours en milieu rural, la question des mobilités, notamment du transport collectif, et également de la désertion des services publics, parce que 7 ans d'austérité budgétaire a fait qu'on a détruit les services publics de proximité en milieu rural. Donc ça, c'est des revendications que moi, j'ai voulu porter pendant cette campagne.
Et tu me parlais aussi tout à l'heure, hors antenne, de repolitiser les quartiers populaires. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?
Ce qu'on a vu, c'est, en discutant avec les quartiers populaires, c'était nous dire, mais nous, en fait, on a l'impression d'avoir toujours été mis de côté par le monde politique. Il ne s'est jamais exprimé à nous. Et en tout cas, il ne s'est jamais exprimé dans notre langage. Ils ont toujours eu ce langage très technocratique qu'on peut connaître du monde politique. Et donc, c'est cette volonté que je vais mener à partir de maintenant, de repolitiser justement les quartiers populaires, de leur expliquer ce qu'est le monde politique. Certains nous ont même dit, je ne comprends pas la différence entre la gauche et la droite. Eh bien, c'est d'expliquer, voilà ce que sont les valeurs de la gauche, voilà ce que sont les valeurs de la droite, voilà le système politique dans lequel on s'inscrit, voilà l'importance d'aller voter. On force les Français en permanence à aller voter, mais il faut leur expliquer l'intérêt d'aller voter.
T'as été investi pour cette campagne et aux élections législatives anticipées par le nouveau Front Populaire, sous la bannière, en tout cas ça a été présenté comme ça dans les médias, sous la bannière de la France Insoumise, alors que tu as été longtemps un proche de Génération.S, le mouvement initié par Benoît Hamon. Lors de cette campagne, t'as notamment beaucoup travaillé avec Arash Seydi, député européen fraîchement élu, ancien membre de Génération.S, aujourd'hui rallié à la France Insoumise, puisque il était troisième sur la liste de la France Insoumise aux élections européenne. Toi, est-ce que tu as fait, à l'instar d'Arash, ce basculement de Génération.S à la France Insoumise ? Est-ce que tu es encarté à la France Insoumise ?
Alors, la France Insoumise est un mouvement politique, c'est pas un parti, donc il n'y a pas de carte. Moi, je viens de Génération. Là-bas, j'avais une carte. J'ai quitté Génération il y a quelques mois au moment des élections européennes. Moi, je me revendique avant tout comme étant un candidat du nouveau Front Populaire. C'est une alliance qui va de Place Publique à la France Insoumise. Moi, ce que j'ai porté, c'est être un candidat d'un programme de rupture. C'est ça aujourd'hui mon étiquette politique, c'est celle du nouveau Front Populaire. C'est une circonscription de la France Insoumise. Ils sont venus me chercher essentiellement parce que je suis un candidat de la société civile qui s'engage, on en a parlé, le syndicalisme étudiant, le milieu associatif. C'est justement ça la force d'un mouvement qui est populaire, c'est de permettre justement au peuple de s'engager directement.
J'aimerais conclure cet échange, Léo Métayer, par une question assez simple. Comment tu vas et comment tu te sens ? Parce que je me souviens de Christiane Taubira qui avait nommé la difficulté et la violence d'une campagne électorale. C'est la première fois que toi, tu la vis en tant que candidat. Voilà, ça mène à ma question. Comment tu vas ? Comment tu termines cette campagne ?
Ça va très bien, ça va très bien. Là, c'est une campagne qui est forcément épuisante. C'est pas la première fois que je mène campagne, donc le rythme, on y est un petit peu habitué. C'est très différent lorsqu'on est candidat, parce que les attaques, on les reçoit soi-même. Surtout une campagne qui a été faite, on l'a vu notamment dans les médias, avec une forme d'acharnement sur le nouveau Front Populaire, alors qu'on avait la menace de l'extrême droite et que c'est là où on devait concentrer notre attention. Donc forcément, ce qu'on entend au niveau national, nous on le reçoit directement en tant que candidat sur le terrain, mais une fois qu'on discute avec les Françaises et les Français, qu'on explique justement que tout ça n'est que mensonge et qu'on explique la réalité des choses, ça se passe tout de suite beaucoup mieux.
Bon, écoute, tant mieux, si jamais tu vas bien. Non pas que j'étais très inquiet, mais ça fait quand même plaisir de le savoir. Merci beaucoup, Léo Métayer, d'avoir été à notre micro sur les ondes de Radio Campus, candidat dans la deuxième circonscription du Maine-et-Loire. T'es arrivé deuxième derrière Stella Dupont, qui a été donc réélue. C'est toi qui as choisi la pause musicale du jour dans le sous-marin, et t'as choisi Medine et son morceau « Allons enfants ».
Oui, j'ai choisi ce morceau parce que il représente selon moi tout ce qu'on a vu dans cette campagne, c'est-à-dire des Français qui se sentent méprisés depuis trop longtemps, des personnes qu'on n'écoute plus, des personnes qu'on ne cherche plus à voir et des personnes à qui on ne souhaite plus parler. Moi, j'ai fait tout l'inverse pendant cette campagne. C'est ces personnes-là que j'ai voulu aller voir, que j'ai voulu rencontrer. Ça parle notamment de personnes, notamment issues de l'immigration, dans ce morceau, qui se disent autant français que les autres, qui ne sont pas des citoyens de seconde zone. Et c'était justement aussi toute la vocation du nouveau Front Populaire, de considérer chacun pour ce qu'il est, dans toute la diversité. Et c'est ça un peu qui fait la richesse du peuple français.
Médine, allons enfants, c'est le choix de Léo Métayer. On revient tout de suite à bord du pédalo, restez bien avec nous.
Je suis pas français comme un soldat de l'armée. La Marseillaise, j'ai toujours pas la chanter. J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots, les batailles de bateaux, les rafales de Dassault. Moi, je suis enraciné à ma manière. Je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier. C'est les mêmes que le fer de la Tour Eiffel. En plus je retiens jamais les dates. Ça fait chier quelques candidates. Mais je sais que les allocs de la CAF, ça tombe le lendemain du 4. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le premier boulanger de France peut s'appeler Mohamed. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc. Bientôt le jour de gloire, mais j'arriverai pas armé. Faut plus de cran pour le mariage que pour se faire la reggae. La musique est mondiale, mais le texte est français. J'ai le cœur étranger en forme hexagonale. Ni de marinière, ni de baguette, ni de béret. Ni de bannière, ni de gâchette pour me libérer. J'mange pas de cochon, mais j'ai l'accent d'un vrai cauchois. Mais j'viens aussi d'Afrique du Nord comme Claude François. Allons enfants de nos quartiers, ne nous laissons pas dénigrer. Même la statue de la liberté a le statut d'immigré. Aucun de nous ne va remigrer du Pas-de-Calais aux Pyrénées. On est inscrits dans leur pédigré. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le plat préféré de France, c'est le couscous du Maghreb. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc.
Médine, allons enfants sur les ondes de Radio Campus Angers, c'était le choix de Léo Métayer.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Ça arrive près de chez vous, c'est un programme Radio Campus France qu'on vous a proposé tout au long de ces campagnes, de cette campagne pour les élections législatives anticipées. On a décidé de continuer à vous diffuser quelques reportages qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous diffuser parce que c'est quand même très intéressant. Et là, on va vous diffuser un reportage de Radio Phoenix, Radio Campus Caen, un reportage d'Emmanuel Frochot qui allait à la rencontre de Félix, président de Territoire Pionnier, maison de l'architecture Normandie. C'est une structure de sensibilisation aux gens jeu des territoires et de leur devenir face au changement climatique et elle aborde la question des difficultés de sa structure et témoigne des résultats concrets. Ça arrive près de chez vous de Radio Phoenix par Emmanuel Frochot sur Campus.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous. Un programme proposé par les Radio Campus.
Ça arrive près de chez vous. Comment vont celles et ceux qui donnent vie à votre territoire ?
Bonjour, donc je suis Félix Pareja, je suis président de Territoire Pionnier. Territoire Pionnier, c'est une association qui est une maison de l'architecture Normandie, Basse-Normandie, puisque les maisons de l'architecture sont des structures régionales. Il y a tout un réseau français de maisons de l'architecture sur tout le territoire. Et donc sur le territoire bas-normand, anciennement Basse-Normandie, Territoire Pionnier est une structure culturelle voilà, qui s'occupe de diffuser la culture architecturale à l'échelle de la région, dans les différents territoires, que ce soit les grandes villes de la région ou la campagne profonde. Alors nous, on mène principalement des activités de sensibilisation aux enjeux de territoire et à leur devenir, aussi au regard des changements climatiques, du dérèglement climatique, et puis des activités que mène l'homme sur ces territoires. Donc on est vraiment sur cette sensibilisation et en même temps la prospective, de manière à ce que chacun puisse prendre conscience des enjeux d'avenir de nos territoires. On a finalement plusieurs médiums pour cette sensibilisation. Ça va d'un festival qu'on organise tous les ans qui s'appelle Chantier commun, qui a lieu au mois de mars, dans lequel on va avoir des dizaines d'événements sur tout le territoire. Cette année, on en avait 80 avec 250 partenaires. On va avoir des visites de bâtiments qu'on estime être exemplaires. On va avoir des activités plus artistiques pour avoir de la sensibilisation. On va avoir des conférences, des rencontres, des balades. Donc c'est extrêmement varié. Donc on a ce festival et puis on a aussi des résidences d'architecture qu'on mène sur le territoire. Donc là on a des binômes d'architectes qui viennent explorer un territoire, l'interroger avec ses habitants, ses élus, ses acteurs et qui vont produire à la fin de leur résidence finalement une matière dont vont pouvoir s'emparer les habitants et les acteurs de ce territoire pour le penser pour l'avenir. Alors actuellement on a deux salariés, donc une directrice et une personne qui est en charge de la coordination culturelle de la structure. On est vraiment sur une association et un type d'association, et je pense que là il y a beaucoup d'associations qui s'y retrouveront où on a une masse salariale qui est très faible en réalité. Et donc nos activités ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas le tissu de bénévoles sur lequel s'appuyer, puisque nous on va mobiliser pas mal de bénévoles, notamment sur la gestion de l'association, ou bien encore sur quelques événements. Donc, je pense par exemple à Parking Day, hein, qui est un événement qu'on organise tous les ans, dans lequel on transforme des places de parking en places publiques. Donc ça fait partie des événements qu'on ne saurait pas faire sans un portage bénévole. Nous, on a beaucoup de gens qui sont du même milieu professionnel que nous, on va dire, donc des architectes, des paysagistes, des urbanistes, ou alors des personnes qu'on connaît à travers les différentes actions qu'on mène, donc plutôt des gens qui viennent des milieux, des structures culturelles, des associations culturelles, etc. Donc ça va déjà être ce premier réseau, et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, on a des habitants, des personnes qui ont découvert le travail de la structure via tel ou tel événement et qui se retrouvent dans les valeurs que porte la structure et qui cherchent aussi à donner un petit peu de leur temps pour améliorer les communs. De manière générale, et là, les témoignages qu'on a, les échanges qu'on a avec les différents partenaires ou structures similaires, le premier enjeu, il est toujours financier pour ce type de structure. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qui est vraiment un financement de projet, c'est-à-dire qu'en fait on répond à des appels à projets ou alors on essaye d'en faire émerger, et dans ces cas-là, on a un budget en fait qui dépend uniquement de nos actions. Donc on ne peut pas être force de proposition, ou quand on l'est, on le fait clairement gratuitement, ou en tout cas, s'il n'y a pas de notion de gratuité, ça nous coûte de l'argent. Donc l'enjeu financier, c'est que nos structures, qui sont identifiées comme étant vraiment pionnières sur les questions des transitions de territoire, de l'écologie, de l'économie sociale et solidaire, n'ont pas les moyens d'être force de proposition, puisque leur structure financière fait qu'elles ne sont que en réponse à des projets. Donc il y a cette difficulté financière, qui est vraiment le premier levier quand même, hein, le principal. Et puis ensuite, alors là, ça va vraiment dépendre aussi des pouvoirs publics en place et de leur capacité ou non à avoir de l'inertie pour mettre en place des projets qui vont vraiment changer la culture et le regard des habitants sur le territoire, les pratiques de l'aménagement, de l'architecture, du paysage. et sans aussi donc cet engagement des pouvoirs publics. Disons que là, on va avoir une variable d'ajustement qui est assez importante. Concrètement, si on a des pouvoirs publics qui sont vraiment le pied sur le frein sur ces questions-là, on ne fait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on n'a pas de grande politique publique, quel que soit derrière... parce que nous, on travaille à une échelle régionale, mais on est finalement sur l'atterrissage de politiques publiques à l'échelle régionale, départementale, et les municipalités, on voit bien, parce qu'on en travaille avec énormément de municipalités différentes, qu'il y a des colorations vraiment différentes, mais dans le cas des gens les plus motivés, on n'est pas non plus sur des capacités phénoménales, puisque structurellement, l'échelle étatique, aujourd'hui, n'encourage pas et permet pas de financer des projets de transition. On voit et on mesure une bascule culturelle chez les élus qu'on accompagne. Donc il y a ceux qui viennent nous chercher parce qu'ils sont très convaincus de ce qu'on fait, et auquel cas on n'a pas grand-chose à faire pour continuer à les engager sur le chemin qui est déjà le leur en réalité. Et puis on a des élus qui vont être parfois un peu sceptiques sur des sujets, ça peut être notamment la place de la voiture dans la ville. Et ce qu'on mesure, c'est qu'ils prennent leurs décisions, en fonction d'un argumentaire qui n'est pas complet, c'est-à-dire qu'il manque clairement des cases à leur réflexion, c'est-à-dire qu'il y a plein de données sur lesquelles ils n'ont pas été formés. Je pense que tout ce qui est relatif aux prospectives, notamment du GIEC, alors d'autant plus qu'en Normandie, on a un GIEC normand, donc on a des mesures relativement précises de ce qui va se passer dans nos territoires à une échelle locale, et quand on leur apporte justement ce bagage scientifique, factuel, de connaissances, tout d'un coup aussi, on voit que leur réflexion évolue. Et c'est pas uniquement l'opinion dans leur cas, c'est aussi que le jugement, il peut pas être correct dans la mesure où ils ont pas tous les éléments pour prendre des décisions, ou en tout cas prendre des orientations politiques. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder les territoires sur lesquels on est intervenu il y a longtemps. Notamment, on en a quelques-uns sur lesquels on a fait des résidences il y a plus de 10 ans. Et dans lesquels il s'est passé plein de choses depuis. Et on constate que la politique mise en place, il y a une vraie accélération, et qu'elle peut être aussi balayée par des enjeux de politique politiciennes locaux. C'est-à-dire que typiquement, on a des communes dans lesquelles on est intervenu où il y a eu une vraie dynamique locale, collective de mise en place. Et puis derrière, au municipal, vous avez le Front National qui est passé. Et là, il y a un gel total des opérations, et il faut encore quelques années pour que la machine se relance, pour que les gens arrivent à convaincre de la nécessité de ces projets-là. Donc oui, des fois, on a des télescopages. Quand ces questions-là ne se rencontrent pas, on constate des vraies dynamiques sur le long terme avec des changements de pratiques, des changements des évolutions de territoire. On ne changera pas nos territoires dans le sens positif du terme, et on ne changera pas la société si on n'embarque pas le plus de gens, et si on ne partage pas avec le plus de monde une vision positive, en tout cas un désir d'avenir positif, ce qui passe par une volonté de mise en place d'une transition écologique radicale. Et ça, si ça ne se retranscrit pas à l'échelle du vote national, ou d'un vote plus régional, etc., c'est quelque chose qui est incompatible. Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle locale, nous, on arrive à parler, à discuter avec tout le monde. Finalement, tout le monde est assez d'accord à sa petite échelle, dans sa commune, dans sa ruralité, pour améliorer la situation, pour réfléchir à comment se préparer l'avenir. Et finalement, c'est assez facile d'embarquer tout le monde sur un commun qui est... finalement assez petit. C'est dès qu'on passe à un commun plus général que là, tout d'un coup, on arrive à avoir des divergences, alors que pour autant, à l'échelle de chez soi, c'est plus facile pour les gens. Mais là, peut-être qu'il faut commencer à raisonner un chez soi plus large et plus partagé, puisqu'il est absolument impératif, parce qu'on dépend à l'échelle locale aussi de la politique nationale, qui décide quand même d'une manière ou d'une autre, et par la loi et par la manière dont est réparti les budgets, de comment ça se passe au local. Nous, clairement, les associations militantes de la transition écologique et je dirais plus largement et sociale écologique, sous un gouvernement d'extrême droite, on sait qu'on tiendra pas plus d'un an. Donc là, en ce moment, on se projette pas trop. Alors, il n'y a pas de dépression, hein, puisque de toute façon, sous le gouvernement Macron actuel, on ne se projetait pas non plus très très loin, puisqu'il faut être très clair qu'il y a un vrai massacre au niveau des budgets alloués à la culture et au développement culturel en France, de la part des politiques publiques en place. En tout cas, il n'y a clairement aucun effort qui est engagé. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui être capable de sortir des logiques de réduction de la dépense publique, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Chirac, tu dois voir de qui je parle, qui disait il y a très longtemps « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Je crois que quand la maison brûle, on ne se pose pas la question de savoir combien ça coûte de faire venir, de faire venir les pompiers. Donc il faut arrêter avec cette question des dépenses publiques. Il faut engager, même si ça doit coûter des sous, en fait, de la dépense pour traiter ces sujets de transition écologique. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas le cas. C'est pas le cas avec le gouvernement actuel, et ce sera encore moins le cas avec un gouvernement d'extrême droite. Donc où on sera dans quelques années, ça dépendra aussi beaucoup de la capacité de la société à s'engager justement dans cette lutte contre cet incendie qui nous concerne tous, hein, qui est le problème du dérèglement climatique. Il faut impérativement que les gens aillent voter là pour les législatives, dans la mesure où dans notre 5e République, c'est bien la chambre de l'Assemblée nationale quand même qui permet de désigner selon la majorité un gouvernement, et ce gouvernement n'a pas la même politique selon sa couleur. Et donc là, il y a vraiment un impératif à se mobiliser. Là, on est clairement dans une urgence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette question de l'incendie qu'il faut traiter. Et on annonce 65% de participation. Bon, bah, les 35% qui restent, c'est de la non-assistance à personne en danger. Moi, en tout cas, je le pense vraiment très honnêtement, c'est de la non-assistance à personne en danger. De pas se mobiliser là, de pas comprendre qu'il y a un enjeu qui est de l'ordre de la subsistance collective, c'est-à-dire que ça concerne pas uniquement quelques personnes, ça concerne tout le monde, ça concerne nos enfants, nos petits-enfants, ça concerne l'avenir des territoires que l'on aime, sur lesquels on a grandi, dans lesquels on aime bien retourner en vacances, les territoires de nos parents, etc. Ça concerne les lieux que l'on aime, les gens qu'on aime, ça concerne l'intégralité des personnes qui habitent nos territoires. Et donc de ne pas se mobiliser là sur ces élections qui sont peut-être notre dernière chance d'arrêter cet incendie, ça relève plutôt de la non-assistance à personne en danger.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain avec, on espère, Elsa Richard, candidate du Nouveau Front Populaire dans la première circonscription d'Angers. Elle aussi arrivée deuxième de ce scrutin. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Centre FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.